So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation.
Bienvenue and welcome on the slab, votre édition sur la science ici à Grenoble et dans le monde entier. Nous sommes encore pas dans le studio, mais bientôt, on espère. Par contre, je m'appelle Andrew et je suis là avec mes deux co-présentatrices. Je suis là avec Erin. Bonjour Erin.
Bonjour Andrew, bonjour tout le monde.
Et bonjour à Lucille.
Bonjour tout le monde.
Nous avons le grand plaisir, cette émission, d'aller à Gypsy Lab ici à Grenoble, lié avec l'université et CNRS, et nous avons deux invités, Jérôme Villeneuve et James Leonard. Bonjour Jérôme et James.
Bonjour. Ravi d'être là.
On va passer très bientôt à écouter à eux. Je suis très excité en fait de cette émission parce que leur recherche s'est faite avec le son, donc ça marche très bien avec la radio. Mmh. Mais avant tout ça, une petite question à Erin. Erin, est-ce que tu as quelque chose dans la science pour nous cette semaine?
I do indeed, Andrew. Little science bit, and in fact, a tiny, tiny little bit.
How big?
0.1 of a gram of tiny, tiny bits.
That is small.
Can you guess what that is?
A grain of salt.
Even if we don't even know a grain, it might be. It's dust, it's debris. It's a little tiny piece of an asteroid that came back to Earth.
It came back to Earth?
Have you heard about the Hayabusa 2?
I have not. Tell me more.
Spacecraft. It's fantastic. So it's a spacecraft from JAXA, which is the Japanese space agency. And its name is Hayabusa, which is Japanese for Peregrine Falcon, which if you know anything about the Peregrines, they fly very fast. And when they hunt, they dive. They have almost a vertical dive. So what this little fella did, it actually dived down onto the surface of an asteroid. The asteroid's name is Ryugu. And it collected little bits of dust, little grains, you know, little pieces of debris. Nobody's quite sure exactly what it's been able to pick up. It has flown 15 million kilometers since then. And when it was 220,000 kilometers above the surface of the Earth, it sent down a little sample case, a little capsule, and it landed on Earth on the 7th of December in the middle of the desert in South Australia. And it contains something. It has successfully come all that way. It's absolutely fantastic.
How are they going to get at it? As soon as they open it, it's going to be exposed to our atmosphere, isn't it?
All right. So they had a quick look at it in Australia just to make sure that it was, you know, whole, and they analysed any gases that may have come down with it. But 57 hours after it touched down in Australia, it was back in the lab in Japan, and they're going to open it very, very, very carefully because what they're hoping to find is organic compounds. This asteroid is a heavy carbon asteroid, a C-type, and they're hoping that it has answers to the mysteries of the beginning of the solar system. Like what is there, and will it have any information for us about how our planet started, how our solar system began, how our, you know, this part of space began? So it's very, very exciting. But it could be, I mean, it's tiny. It's minuscule amounts. But it's back. And this is what they call a sample return mission. And this is sort of a space fashion at the moment. It's a trend of bringing things back from space without the, you know, the aircraft itself coming back as well, just, you know, dropping off and swooping out again like a falcon. It's gone off to visit two other asteroids at the moment. And it's fantastic. I think it's absolutely the most stunning thing from this week.
Do you think that because it's looking for organic compounds, that it might be looking for things like the building blocks of life?
Exactly right. Exactly right. That's what they're hoping to find. And they're hoping to find out different things about where this asteroid has been. Has it been close to the sun? Has it been, you know, in different areas or environments that changed it? Apparently its texture is freeze-dried coffee. It feels or it looks like freeze-dried coffee.
Tasty.
It's pretty interesting. Tasty stuff, yeah, exactly. Exactly. So NASA's going to get 10% of the dust or the debris, whatever it is. And in exchange, they're going to give the Japanese agency, JAXA, 10% of the stuff that they found on the asteroid named Bennu, which is the famous OSIRIS-REx mission. Yeah. But that won't be back until 2023. So there you go. Not only do we go places now, but we go send little spacecraft up there, get stuff, bring it back.
10% of 0.1 gram isn't very much.
No. But the first one that brought it back, it had 1,535 grains of asteroid material. Grains. So they're hoping that it's going to be bigger than that. It's fantastic.
That's fantastic. Merci beaucoup, Erin. Nous allons passer maintenant bien sûr la Terre. On va parler de la séance du son, en fait, et avec nos deux invités. Jerome et James, vous travaillez à Gypsylab. Juste pour démarrer, est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi Gypsylab?
Gypsylab, c'est un laboratoire, c'est un assez gros laboratoire du site Grenoble en matière de recherche pour Grenoble Image, Signal, Parole et Automatique. Donc c'est un labo qui historiquement en rassemble trois sur ces thématiques, qui a maintenant, je pense, une quinzaine d'années dans cette forme-là, et qui rassemble 150, on va dire entre 120 et 150 permanents, et 300 à 400 personnes quand il est question d'inclure les stagiaires, les doctorants et les équipes IATOS, etc. Et qui est situé tout près du, enfin vraiment au cœur du campus, là tout à côté de l'esplanade de la bibliothèque universitaire du campus sur Saint-Martin-d'Air.
Et vous travaillez avec une cellule de recherche qui s'appelle ANIS. C'est quoi ANIS?
Donc ANIS, c'est une petite cellule de recherche donc pour art numérique et immersion sensorielle. Elle s'est inventée en octobre 2018 quand on est arrivé sur le laboratoire GIPSA. Donc nous, James et moi, on a proposé un projet de recherche autour des arts numériques, de leurs pratiques, des développements technologiques que ça suppose et de l'observation des pratiques nouvelles, disons, dans la création artistique qui relève des technologies numériques. C'est un peu large. Mais on a proposé ce projet au ministère de la Culture, au CNRS, à GIPSA, à l'UGA et à l'INP, à cette époque-là, en gros. Et on a eu la chance d'être soutenu par le ministère de la Culture et d'être incorporé à GIPSA Lab et de trouver des collègues là-bas, dont Olivier Perrotin, je crois, qui est passé par chez vous récemment, et Nathalie Henrich, par exemple, avec lesquels on a constitué donc cette cellule. On est les deux personnels à temps plein, on va dire, de la cellule. Et évidemment que le GIPSA et le campus n'a pas attendu que nous arrivions nous-mêmes pour déjà se questionner sur cette relation de l'art à la science et du son de manière générale. Hein. Je veux dire, GIPSA, quand il est question de parole et de signal, a vraiment de très belles connaissances, compétences et a apporté beaucoup de choses dans la matière du traitement de la voix, de l'analyse de la voix, etc. Donc voilà, ça s'est vraiment construit en synergie avec les gens de GIPSA. Et nous-mêmes, évidemment, amenant vraiment un lien très très fort à la question de la création artistique et au lieu et contexte de la pédagogie, de la pratique et de la diffusion culturelle, en fait, puisqu'on travaille avec beaucoup beaucoup de structures du milieu culturel, que ce soit grenoblois, rhône-alpin ou national.
Et du coup, c'est ce qui rend la cellule de recherche ANIS unique, le côté, le rapport aux arts, ou il y a d'autres cellules un peu du même type dans votre labo? Il y a combien de cellules d'ailleurs
Alors, GIPSA? Dans GIPSA, on est la seule cellule. En fait, donc là, les laboratoires, ça vous aura pas échappé. Hein, récemment, on replanché sur leur programme pour les années à venir. Hein, il y a eu le CRES qui est passé. Et en fait, on s'appelle Cellule ANIS dans le futur quadriennal, donc dans GIPSA 4, la prochaine mouture qui attaque là en janvier 2021. Donc c'est tout neuf. Avant, il y avait des pôles, il y avait des axes transversaux, tout ça. Là, en l'occurrence, on fait office d'originalité au sein de GIPSA, de transversalité en fait, puisqu'on a vocation à s'adresser à tous les historiques, les départements historiques qui sont devenus maintenant des pôles. Ça s'est un peu remélangé et je ne vais pas m'amuser à décrire ce que c'est maintenant parce que c'est plus compliqué qu'avant, on va dire, de notre perception. Mais beaucoup plus... Il y a un sens à tout ça, évidemment. Hein, ça ne s'est pas inventé pour se complexifier. Donc, on a cette vocation de transversalité. Donc, au sein de GIPSA, il n'y a pas de cellule équivalente en la matière de condenser autant que possible tout ce qui relève de la relation à l'artistique et au culturel dans GIPSA. Sur le campus, évidemment, qu'il y a pas mal de choses, par contre, qui existent sur cette question de la création artistique. Alors, c'est généralement typé dans les disciplines, plutôt danse, plutôt spectacle vivant, plutôt musique, etc. Musique assez peu, finalement. Mais il y a pas mal de choses sur le campus grenoblois qui existent, et c'est un peu aussi pour ça qu'on arrive sur Grenoble, c'est que quelque part, il y a peut-être de très belles choses à mettre en œuvre, en commun, qui aussi traversent les universités historiques, dans les catégories des sciences humaines et sociales, et puis des sciences dures, etc. Donc nous, évidemment, on a cette vocation, enfin cette volonté, vocation, je sais pas, mais en tout cas, on a très envie d'être en mesure d'aller voir tout le monde et d'imaginer, en tout cas, de recenser, puis imaginer peut-être des collaborations intéressantes dans le futur sur ces thématiques qui croisent arts et sciences.
Mais justement, c'est quoi votre motivation? Est-ce que vous-même... vous avez la fibre artistique, vous avez enfin quelle a été l'origine en fait de la création de cette partie de recherche en fait.
Alors, on est tous les deux issus de parcours un petit peu similaires en fait. Plutôt des parcours sciences et techniques à l'origine. Moi, je suis issu d'une formation d'ingénieur en informatique et électronique. Jérôme est plutôt physicien. Et on est tous les deux pratiquants en musique, plutôt musique actuelle sous diverses formes depuis qu'on est jeune, on va dire. Et je pense que tous deux, en arrivant sur un peu la fin de notre parcours universitaire de master ou de formation d'ingénieur, on s'est intéressé à ce qu'il pouvait y avoir un petit peu à la frange, typiquement, entre les sciences et techniques et puis la création, en particulier sur les questions de son et de musique. Donc, c'est à la suite de ça que Jérôme, 2 ans avant moi, je crois, a fait un master qui s'appelait Arts Sciences Technologie à l'époque, qui était porté par FELMA au niveau de l'INP. Et enchaîné par une thèse dans ce domaine-là, quoi, enfin en informatique musicale. Moi, j'ai un parcours très 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 similaire là-dedans. Donc, on est tombé un peu dedans comme ça, en n'ayant pas forcément raccroché nos propres pratiques artistiques et musicales avec les notions qu'il peut y avoir plutôt dans la recherche contemporaine d'informatique musicale. Mais finalement, on est un peu tombé dedans, on s'y est pas mal accoutumé, et aujourd'hui c'est vrai qu'on a encore une pratique artistique chacun, et puis même en collaboration, enfin on a des projets musicaux sur lesquels on travaille ensemble aussi, mais c'est une appétence qui vient un petit peu du croisement de ces deux choses-là et de l'hybridation vraiment entre une espèce de passion pour les sciences et techniques et puis le son, en fait, de manière très générale.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement, les arts numériques, en fait ?
Eh ben, c'est je me permets, James, c'est pour nous, c'est on a un terme assez général dans toutes nos actions, c'est simplement de considérer toutes les formes de création, d'expression humaine, plutôt vocation artistique, qui, pour exister, ont à un moment ou à un autre besoin de manière très, très évidente de l'outil numérique. Alors, ça peut être, j'aime bien illustrer ça en exemplifiant, par exemple, sur l'architecture ou le design. C'est-à-dire qu'il est, pour nous, un processus artistique numérique, donc l'art numérique, peut concerner quelque chose où l'outil numérique est un outil qui va générer des formes, par exemple, algorithmiquement, etc. Et in fine, faire que une personne ou une machine vienne usiner quelque chose de solide, une forme géométrique solide, donc qui n'a rien d'électronique qui la traverse, mais malgré tout, la forme pour être générée, pour exister, à supposer qu'un processus numérique soit mis en œuvre pour générer sur l'équilibre de tel ou tel espace, volume, etc. En architecture, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Donc, il y a évidemment tout ce qui est très évident dans le traitement du son, le traitement de l'image, l'interactivité, l'immersion, etc., la multisensorialité. Et puis, ça va jusqu'à des choses qui, sur le plateau du spectacle vivant, sont l'outillage technique un peu plus usuel, ou par exemple en art plastique ou en architecture, peuvent être des choses qui sont in fine inertes, mais qui en elles-mêmes ont supposé que l'ordinateur soit quelque part un élément clé du processus de création.
Sachant qu'on réfère toujours à art numérique comme art numérique au pluriel, c'est-à-dire des arts et des pratiques du numérique. Donc quelque part, c'est une dénomination un petit peu valise, en fait, qui recouvre énormément de disciplines artistiques, en fait. On parle de spectacle vivant, d'art visuel, art plastique, de musique. Donc, c'est volontairement très, très transverse et très, très large, finalement, sur tout ça.
En imaginant que justement, il y a des interstices intéressants et que le numérique soit clairement, c'est ce qu'on observe en tout cas, ça crée des ponts entre les pratiques, les praticiens, les artistes. Qui pour certains sont justement dans la catégorie art plastique, vont s'intéresser fortement à la relation de leur art à la dimension sonore, puisque l'outil numérique permet de faire assez facilement des liens d'une modalité à l'autre, ça paraît très évident. Mais dans cette évidence, il y a peut-être des choses qui, justement, sur le processus de création, sur la manière d'appréhender l'œuvre d'une partie ou de l'autre, la dimension sonore ou visuelle qui prime ou qui est première et qui finalement va s'effacer au bénéfice d'une autre forme et d'une autre manière de s'exprimer en tant qu'artiste. Il y a pas mal de choses, en fait, qui émergent vraiment de ce que le numérique permet de ces croisements, de ces hybridations. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse. Et dans la côté recherche, pardon.
Non, pardon. C'est aussi l'idée que scientifiquement, on pense et on, enfin, le, nos activités tendent un peu vers ça depuis qu'on est en place. On pense qu'au travers de ce prix justement numérique, il y a plein de questions qui sont communes en lien avec la création technologique, qu'il s'agisse de création visuelle, sonore ou autre. Et donc, que d'adresser ça non pas comme une lumière, le numérique comme une excroissance, on va dire, qui vient se rajouter à un domaine artistique, à une discipline donnée, de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça et de pouvoir regarder un peu la transversalité entre des problèmes. Par exemple, je ne sais pas si on parle d'improvisation dans le cadre des technologies numériques, c'est un truc qui trouve sa place dans les arts performatifs, dans le son, dans des processus qu'on ne soupçonne absolument pas en fait, au départ dans d'autres disciplines. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de prendre ce pas de côté un petit peu pour aller voir ce qu'il y a comme problématique commune entre tout ça.
Excellent. On est dans le studio 90.8 avec Jérôme Villeneuve et James Leonard de Gypsy Lab. On va passer très bientôt à vos collaborations avec les artistes. Ça semble très intéressant avec les collaborations récentes ou notables. Mais avant ça, on va juste passer un petit morceau de musique nous-mêmes et on vous verra très bientôt. Juste après ça, ça serait Rain Cloud par Susanna Choffel.
Drip, drip, drop, little raindrops fall. Drip, drip, drop, little raindrops fall. Drip, drip, drop, little raindrops fall. Drip, drip, drop, little raindrops. I got a little black rain cloud, and he follows me around, and he never leaves me lonely. No, he never lets me down. And sometimes I get to thinking that I need a little love. Truth is I got secrets I never done told. One day I went up to the mountains and I screamed my secrets loud in the skies, the skies, the skies. They sent me little black rain raindrops.
Vous êtes en Mousse Lab 90.8, votre émission sur la science ici à Grenoble, dans le monde entier. Nous sommes là dans le studio, ou au moins chez nous, avec Jérôme Villeneuve, James Leonard de Gypsy Lab et le pôle ENIS Art Numérique et Immersion Sensorielle. Quand on parle des arts numériques et immersion sensorielle et le mariage entre la science et les arts, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu des projets récents ou notables que vous avez fait et le genre de technique que vous avez amené aux arts?
Alors, je peux peut-être juste commencer sur un cadre général là-dessus. C'est-à-dire que notre recherche, elle est amenée sur le projet qu'on proposait à l'origine et elle va être amenée à persister sur ce modèle-là, à toujours être très en lien avec la création artistique et le milieu de la diffusion culturelle. Et donc, un des premiers outils un peu général qu'on a eu l'occasion d'inventer sur un financement IDEX, d'ailleurs, de l'Université de Grenoble, côté rayonnement social et culturel, c'est justement d'arriver à créer des résidences d'artistes accueillies sur le campus universitaire, sur des périodes très longues, pour nous, universitaires, en tout cas relativement longues, de l'ordre de 6 semaines par projet d'artiste. Donc, ça s'appelle CréatUniv. On a lancé l'appel en 2018. On a eu plein de réponses, beaucoup plus que ce qu'on attendait. Il a fallu dire non à beaucoup trop de gens, c'est toujours un crève-cœur. Et donc, on a eu 3 projets lauréats là-dessus, dont on peut parler peut-être de Radio Cargo. Enfin, je vais commencer par là, puis je te laisserai continuer, James, sur d'autres choses. Il y en a pas mal. Hein. Et qui, par exemple, est un projet porté par des anciens étudiants des Beaux-Arts, de Bourges et de Aix-en-Provence. Donc des plasticiens de formation, mais bon, à Bourges, vous savez peut-être qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées là-bas côté radiophonie et côté pratique et esthétique du son et de la musique acousmatique, qui évidemment ont laissé des traces. Acousmatique, enfin, l'école acousmatique, Pierre Schaeffer, etc. Enfin, il y avait le GMEB là-bas, un centre de création musicale qui a fermé il n'y a pas si longtemps, mais bon, il y avait vraiment une compétence et beaucoup de choses qui sont passées là-bas dans le son, qui ont infusé sur l'école d'art, notamment là-bas, et il y a des formations complémentaires pour les plasticiens qui s'intéressent vraiment à la pratique du son, à la radio, etc. Et donc, ce collectif d'artistes, Radio Cargo, nous a proposé un projet super intéressant qui nous a beaucoup, beaucoup impliqués. Presque moi en tant que chercheur sur le coup, il n'y a pas une méthodologie de recherche qui a été appliquée à leur accueil, on va dire, mais en revanche une pratique collective sur justement ces questions d'improvisation, d'émergence à la fois de cohérence entre le son, la pratique du son, les ambiances sonores et le texte, et même les textes guidés par des règles de jeu, de jeu de plateau, etc. Donc c'est typiquement le genre de projet sur lesquels on s'est embarqué, qui nous ont amené d'ailleurs à publier quelques petites choses et à performer là récemment et à imaginer pouvoir performer encore sur l'année 2021. Donc voilà, c'est pour exemplifier simplement une forme qui a pu être pratiquée cette année.
Il y a les vidéos et les choses sur YouTube, n'est-ce pas, pour voir les choses que vous avez fait avec Radio Cargo.
Non, on a documenté un peu la résidence, mais alors oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'évidemment la résidence devait se tenir entre janvier et mai dernier, donc la première partie a eu lieu et la seconde partie est remise à l'année prochaine, puisqu'évidemment le Covid est venu embêter un peu nos plans d'accueillir des artistes sur le campus, et donc voilà, en fait sur ces projets, sur CréatUniv par exemple, il y a un gros report sur le début de l'année 2021, avec à la fois la suite des résidences pour les artistes et des temps de diffusion sur des actions culturelles qu'on conduit sur le territoire, un festival d'art numérique en mai sur Grenoble, et puis d'autres temps qu'on a eu l'occasion de pouvoir inventer sur le territoire.
Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre expertise, votre apport à vous, au niveau technique ?
Alors peut-être par l'exemple que James s'apprête à évoquer, je suppose. Ouais.
C'est vrai que là, dans la collaboration Radio Cargo, l'intervention était peut-être de nature un peu moins scientifique et technologique, bien qu'on a amené des choses. Il y a des projets effectivement où nous, on est porteurs vraiment d'une compétence un petit peu pointue sur les questions à la fois d'immersion collective par le son essentiellement. C'est-à-dire comment gérer du son tridimensionnel pour un ensemble de spectateurs, pour de la performance, pour de la musique, pour des choses comme ça. Et on a aussi une forte casquette synthèse sonore, en fait, par modélisation physique. C'est notre cœur de métier, enfin, un peu de façon barbare, quoi. C'est nos recherches plus fondamentales se basent vraiment là-dessus.
Nos thèses se sont faites là-dessus.
Oui, nos thèses étaient vraiment sur ce domaine-là. Donc, les apports techniques vraiment qu'on va apporter sur certains projets, ça peut être, je ne sais pas si je prends l'exemple, par exemple, d'une collaboration qu'on a actuellement avec le compositeur Arnaud Petit, un industriel de la harpe qui s'appelle Camac Harps, c'est un des plus grands fabricants mondiaux de harpe, et Guylaine Petit-Volta, une harpiste de très très haut niveau. On travaille avec eux sur un projet complètement fou, d'une harpe augmentée qui a été construite par le luthier, par Camac. Donc une harpe qui a des capteurs piezo sur chaque corde et un gros logiciel de traitement en temps réel pour qu'on puisse extraire toutes les informations de ce que joue l'instrumentiste. Et nous derrière, on travaille sur plein de choses avec ça pour typiquement faire une pièce mixte entre une harpiste réelle sur son instrument augmenté et une harpe virtuelle qui est entièrement simulée et qui va travailler, on va dire, de pair avec la musicienne sur une grosse création contemporaine mixte. Donc, typiquement, dans ce genre de collaboration-là, on a un rôle vraiment très, très technique pour le coup et qui est vraiment de développer des modèles acoustiques, par exemple, pour une harpe virtuelle, faire un instrument qui sonne bien, qui tourne en temps réel et qui peut être utilisé sur scène dans un cadre de festival de musique contemporaine devant pas mal de monde. Et ça, normalement, c'est quelque chose qui devrait avoir lieu, si tout se passe bien, au niveau sanitaire, en février, au 104 à Paris, dans le festival InnovaSound. Donc ça, c'est quand on intervient plutôt sur des questions vraiment scientifiques et techniques, les trois volets, je dirais, principaux sont modèle physique pour la synthèse de son et la synthèse de dynamique, immersion collective, notamment par le son. Et puis, il y a quand même la question de l'interaction et de l'interaction gestuelle qui nous tient beaucoup à cœur dans ces choses-là. Enfin, moi, c'était au cœur de ma thèse, notamment, de voir quand on travaille, par exemple, avec un instrument musical numérique qui est contenu dans la machine, comment on peut quand même garder un lien instrumental et un espèce de corps à corps avec cet instrument-là, notamment pour des questions d'expressivité et de développement, en fait, d'un langage musical avec cet instrument.
Et justement, est-ce que vous pourriez expliquer, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire augmenter. On parlait d'instruments augmentés, oui, oui. De réalité augmentée, juste un peu nous décrire brièvement ce que c'est.
Alors, instrument augmenté, c'est pareil, c'est un terme un petit peu valise qui est utilisé pour adresser tous les instruments basés sur les instruments qu'on connaît, quoi, enfin les instruments mécanos acoustiques, on va dire. Qui peuvent se voir augmenter par des briques technologiques, généralement un peu de hardware, par exemple des capteurs additionnels et puis du logiciel pour aller traiter ça et faire des choses. Donc ça va de projets où on va mettre, je sais pas, un capteur de Wiimote sur une guitare pour pouvoir utiliser les accéléromètres pour contrôler des effets en temps réel en fonction de l'orientation de la guitare, à des projets beaucoup plus complexes comme une harpe où il y a un système électronique complètement dément pour capter toutes les vibrations de toutes les cordes de manière dissociée. Et réalité augmentée, effectivement, c'est un truc auquel on touche pas mal, et où là, on s'intéresse à... On va dire, je parlerai plutôt de réalité étendue plutôt qu'augmentée. Étendue au sens où on va pouvoir soit découpler les gens de la réalité physique et réelle et les amener par l'immersion dans un contexte virtuel qui est autre. Typiquement, les casques de réalité virtuelle, c'est un petit peu ça qu'on va faire avec. Soit de la réalité mixte ou étendue, on va surimposer des choses, c'est-à-dire ancrer par exemple les individus dans le monde physique et dans une performance qui existe collectivement dans un espace donné, mais on va venir augmenter cet espace, par exemple au niveau sonore, par tout un écosystème de sons qui vont être distribués à 360 degrés autour de la tête des gens, par de la projection visuelle potentiellement qui peut aussi être immersive et panoramique. Donc ça couvre un petit peu tout ça, c'est assez large.
C'est comme être dans un film, quoi, ou dans un, je sais pas, j'ai un peu du mal à imaginer
IMAX, comment ça peut être.
C'est tout bête, hein, la référence, c'est un peu le futuroscope, je sais pas si vous y aurez été, mais ne serait-ce que des écrans en fait, qui entourent les personnes, et puis évidemment ne serait-ce qu'au cinéma, les sons surround, etc., où les enceintes peuvent être tout autour de vous, parfois au-dessus, etc. Donc ça, en fait, on en propose des versions qui sont pensées mobiles, qui sont pensées un peu agiles et capables de s'adapter à pas mal de situations, pas mal de formes artistiques, qui peuvent être de la musique pure, de la musique, enfin, des formes audiovisuelles ou des formes un peu plus délirantes pour certains, qui peuvent s'intéresser, s'associer au plateau du théâtre aussi bien qu'à un espace public, par exemple, quand on pose ces systèmes-là. Et donc simplement questionner déjà l'immersion sonore, parce qu'à la base, c'est vraiment là-dessus qu'on est doté, équipé et compétent sur Gipsa. Donc, 12 enceintes autour de quelqu'un, disposées en cercle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est capable de proposer aux artistes, d'expérimenter, de composer à la fois la musique, le temps et l'espace, en l'occurrence. Qu'est-ce que ça véhicule vraiment? Comment les gens le perçoivent? Il y a une question de perception. Gipsa est plutôt pointu là-dessus. Nous-mêmes, on a eu la chance de suivre un peu des enseignements là-dessus quand on s'est formé. Sans pour autant aujourd'hui être vraiment producteur d'une connaissance nouvelle, même si on y aspire, et donc on nourrit progressivement une recherche qui s'exprimera un peu plus tard sur ces questions-là. Et puis évidemment derrière la notion de multisensorialité, de comment quand il est question d'espace sonore et visuel, le regard, l'attention, la manière dont nos sens s'accaparent et traitent l'information visuelle et sonore de manière couplée, comment ça intéresse évidemment l'artiste et le public, enfin comment, quel est le lien en fait par l'expression artistique qui arrive à se créer entre les deux. Donc c'est un peu tout ça sur ces questions qui nous intéressent. Ce que James dit un peu avant, c'est qu'il y a, en fait, on a deux aspects dans notre recherche, dans notre méthodologie, c'est qu'il y a une dimension très technique, très ingénieriale, où là, on est vraiment sur une recherche scientifique axée signal, axée synthèse sonore, axée système autonome, DSP, automatique, etc. Donc là, c'est plutôt facile, on va dire, en termes de méthodologie, on l'applique. Et puis, il y a celle qu'on invente, c'est-à-dire par l'observation. Déjà, aujourd'hui, documenter ce qui se passe avec Radio Cargo quand on est simple observateur, parfois contributeur sur des formes de création artistique, ou avec, en l'occurrence, Scriptum. Donc ça, c'est un projet qui est un peu documenté. Donc c'est un label de musique électronique, hein, de techno un peu intéressant, un peu bien positionné en France, avec qui on travaille sur cette forme de l'immersion audiovisuelle justement pour les musiques populaires. Label électrique, normalement on a 2 semaines à label électrique le 1er février, là vraiment sur de la création et de la diffusion un peu massive, ça va être cool. Mais en gros là-dessus, voilà, on est à la fois, on amène les outils, on positionne un peu ces outils dans un contexte d'usage. On est en mesure peut-être un jour de développer des formes spécifiques d'outils logiciels ou hardware pour ça. Mais là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est dans quelle mesure les artistes s'intéressent à ces outils, dans quelle mesure les publics sont responsifs à ce que les artistes évoquent à travers ces outils. C'est d'observer déjà un peu le processus, comment ces choses-là se mettent en œuvre, comment ça fonctionne en fait.
Et peut-être juste une dernière question. Vous avez déjà parlé de Radio Cargo et une réponse qui était même au-dessus que vous avez attendue. Est-ce que vous vous trouvez plus en plus sollicité par les artistes pour augmenter leur art?
Et plus en plus.
En fait, je dirais que c'est pas nous qui sommes sollicités par les artistes pour augmenter leur art par la rencontre avec nous. Par contre, on se rend de plus en plus compte au fil des années, au fil de la structuration de notre activité, qu'il y a une panoplie d'artistes numériques qui portent cette dualité, on va dire, des formes artistiques classiques et de l'incrément technologique et numérique en lui-même, qui portent vraiment ça en eux et qui font des choses qui sont absolument géniales, qui sont en rupture en fait avec plein de préconceptions qu'on pourrait avoir et qui ne sont pas juste un mariage heureux, on va dire, à un instant T entre l'art d'un côté et la science de l'autre, mais où c'est vraiment un espèce d'hybride perpétuel, des gens qui développent leurs propres outils pour faire leur propre création artistique et des choses comme ça. Donc je dirais qu'on se rend juste de plus en plus compte de ça, et effectivement le réseau commence à être assez conséquent en fait. Quand on regarde le carnet d'adresses, c'est super quoi.
C'est le futur de son peut-être, c'est comme ça maintenant.
Bah, disons, ce sera le futur du son avec d'autres. C'est ça qui nous intéresse, c'est qu'autant on a une fibre son, mais si on parle d'art numérique et pas d'informatique musicale par exemple, c'est parce qu'en fait le son a d'autant plus de valeur pour nous quand il s'applique et il s'intéresse à d'autres formes d'art en fait. C'est vraiment là qu'on s'éclate et qu'on prend plaisir à collaborer, contribuer à des efforts de création et à travailler auprès des artistes, c'est certain.
Excellent. On est chez nous en train de parler avec Jérôme Villeneuve et James Leonard de Gypsy Lab. Merci beaucoup. C'était
formidable. Merci à vous. C'était super de pouvoir parler.
En parlant de musique, on va passer à notre morceau de musique australienne obligatoire maintenant. Et ce morceau m'amène vers ma jeunesse et probablement toi aussi, Aaron. Cette morceau s'appelle Stuck on You par The Hunters and Collectors.
Yes! Oh. Yes! Excellent!
Stuck on you. Vous êtes On the Slab Radio Campus Grenoble. Suivez-nous sur notre page Facebook On the Slab Grenoble.
Vous êtes On the Slab 90.8 et ça, c'était le pub pour notre page Facebook et je vous conseille d'y aller là parce qu'il y avait plein de liens pour montrer le travail de Jerome et James et on va tous les poster là-bas. J'ai un autre truc juste à dire à vous aussi, c'est notre dernière mission de 2020. On espère que 2021, c'est beaucoup mieux d'abord. Mais ensuite, il y a un sondage pour le moment par Radio Campus Grenoble et nous voudrions savoir notre audience, nous voudrions savoir qui nous écoute. Donc, si vous passez à aux pages web de campusgrenoble.org, c'est absolument impossible d'arrêter le petit lien en haut pour le sondage. Bon, allez là-bas, s'il vous plaît, remplir le sondage. Nous voulons beaucoup vous entendre. J'ai fini avec ça. Et ensuite, je vais passer à Lucille pour notre Home Lab.
Yes. Alors, le Home Lab, cette fois-ci, parce que ce sont bientôt les fêtes de fin d'année et que les fleuristes ont pu réouvrir leur boutique, enfin, j'ai eu envie de vous proposer un petit atelier ludique et décoratif en créant une fleur bicolore, bicolore pour deux couleurs. Et j'avais envie de rester dans le thème science et art, sauf que là, bien évidemment, l'expérience est beaucoup moins sophistiquée que ce qu'a pu nous raconter Jérôme et James. Mais bon. Alors, pour réaliser tout cela, il vous faut deux récipients. Par exemple, deux verres à eau, de l'eau, deux encres ou deux colorants alimentaires de couleurs différentes, par exemple bleu et rouge, un couteau ou un cutter, et enfin une belle fleur blanche, ou en tout cas une fleur avec des pétales blancs, comme par exemple une grande marguerite ou bien un œillet. Et vous pourrez aussi répéter cette expérience sur plusieurs fleurs pour constituer un bouquet, par exemple. Voilà. Alors, la marche à suivre. Vous remplissez vos verres aux trois quarts d'eau. Vous y versez quelques gouttes d'encre ou de colorant, un verre, une couleur. Vous mélangez tout ça. Puis, vous prenez votre fleur et vous fendez sa tige en deux à l'aide du couteau, sur une hauteur qui correspond à peu près à la moitié de la longueur de la tige. Vous placez ensuite un des brins dans un des verres, l'autre brin dans l'autre verre, et vous laissez agir le temps. Et vous allez observer que la fleur va se teinter progressivement, une moitié bleue, une moitié rouge, si vous avez choisi ces couleurs.
No.
Et au bout de 1 à 2 heures, cette coloration sera stable. Alors, ok, c'est super chouette mon histoire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question. Alors déjà, bon, s'il y a deux choses à comprendre ici, ce sera l'action capillaire et la transpiration de la plante. Tout d'abord, l'action capillaire, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la capacité d'un tube à conduire un liquide vers le haut malgré la gravité. Elle est due à des forces dites de tension superficielle entre les deux phases en présence, par exemple de l'eau et de l'air. Et c'est cette tension, superficielle, en fait, elle est proportionnelle à la force de cohésion du liquide. Et plus le liquide, plus les molécules du liquide ont une cohésion forte, plus le liquide est susceptible d'être transporté par capillarité. En l'occurrence, ici, on parle d'eau. L'eau, c'est quoi? C'est H2O, deux hydrogènes liés à un oxygène. D'ailleurs, cette liaison est dite covalente, c'est-à-dire que chaque atome d'hydrogène partage avec l'oxygène une paire d'électrons. Et on dit aussi que la molécule d'eau, elle possède ce qu'on appelle une polarité. Les atomes d'oxygène étant plus électronégatifs que les atomes d'hydrogène, l'atome d'oxygène porte une charge dite partiellement négative, alors que les atomes d'hydrogène, eux, portent une charge partielle positive. Et c'est en fait le côté positif d'une molécule d'eau va attirer le côté négatif d'une autre, et cette liaison s'appelle la liaison hydrogène. On parle aussi de cohésion, puisque cette polarité fait que les molécules d'eau en fait, vont s'attirer les unes les autres. Et lorsque ces molécules d'eau elles sont attirées par un autre élément, comme par exemple la surface de la tige, on parle d'adhésion. Et c'est en fait cette cohésion et cette adhésion qui sont les ingrédients qui permettent à la plante d'utiliser ses capillaires pour puiser l'eau à la racine et la faire parvenir à ses parties vitales, les parties qui ont besoin de l'eau. Ensuite, une fois, dans notre cas, que l'eau colorée sera complètement parvenue jusqu'aux pétales, le colorant il va se fixer dans les pétales, Mais l'eau, elle, va s'évaporer par des petits trous à la surface des feuilles. Et c'est ce qu'on appelle la transpiration. Alors, comme j'ai encore un peu de temps, en tout cas, je vais le prendre. J'avais envie de vous proposer une deuxième toute petite expérience pour montrer la polarité de l'eau.
Allez, c'est Noël.
Ouais, c'est le 2 Home Lab en 1. C'est très rapide et je suis sûre que vous la connaissez tous. Il vous faut une règle, un chiffon laineux et un robinet d'eau. Et en gros, c'est très simple. Vous frottez votre règle en plastique à l'aide du chiffon de laine. La règle, elle va se charger électriquement. Pardon. En l'occurrence ici, des électrons vont être arrachés à la règle et transférés sur le tissu. La règle va donc être chargée positivement. Ensuite, vous ouvrez le robinet d'eau, mais juste assez pour laisser couler un mince filet d'eau. Et vous approchez la règle du filet d'eau. Et vous allez voir qu'il sera dévié vers la règle. L'eau, elle est donc attirée par cet objet chargé électriquement. Pardon, j'ai envie de dire électrocuté. Et donc, ça met en valeur en fait cette polarité comme un peu dans un aimant. En fait. Voilà. J'arrête là parce que mon temps est compté. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette émission. Et j'espère aussi qu'il y aura beaucoup de bouquets de fleurs sur vos tables à Noël.
C'est une formidable expérience pour Noël. Je voudrais dire aussi, pour cette dernière expérience, ça marche même mieux avec un ballon.
Un ballon
Oui, un ballon en caoutchouc. Donc, tu gonfles un ballon et ensuite sur le chevaux, ou même avec le poil d'une chat, ça marche même mieux. Non. Mais on frotte le ballon avec le chat.
Avec le chat.
Et ensuite, on passe avec le chat.
Contre les cheveux.
Non, avec un chat. Et ensuite, avec l'électricité statique, ça va dévier l'eau aussi. Ça marche même mieux.
Ça marche avec les chiens aussi, ou c'est que les chats?
J'ai jamais essayé avec un chien. Le chat n'est pas non plus, mais bon. Et ça, c'est la fin de notre émission. Un grand remerciement à nos deux invités, Jérôme Villeneuve et James Leonard de Gypsy Lab. Un grand remerciement, bien sûr, à mes co-présentatrices Erin et Lucille. Et je voudrais remercier toute l'équipe de Radio Campus Grenoble. 2020, c'était une année affreuse pour tout le monde, mais ils ont vraiment géré aussi bien que possible. C'était un effort absolument formidable. Un grand remerciement à eux aussi. Et bien sûr, à vous tous, restez saufs et sains chez vous. Ne trappez pas une maladie mortelle et on vous verra en 2021.
That's it, man. Game over, man. It's game over.